Bonjour à tous, chers lecteurs de Sonic France, c'est Punky Boy. Nous sommes tous là avec Zelan, Wissan et Super 7 pour le troisième podcast de Sonic France. Un podcast cette semaine dédié au passage à la 3D de Sonic qui a été plutôt laborieux, on va le voir, mais qui au final est, on peut dire, plutôt réussi. En tout cas, on va essayer de le savoir tout au long de ce podcast. Donc, comme je vous l'ai dit, avec nous, nous avons Zelan. Nous avons Wissan.
Bonsoir.
Et Super Seb.
Punky à poil.
D'accord. À la fin, promis. Donc, on va commencer déjà par dénoter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. On va essayer de définir quand est-ce que exactement on peut dire que Sonic est passé à la 3D. Est-ce que c'est avec Sonic 3D? Est-ce que c'est avec Sonic Extreme? Est-ce que c'est avec Sonic R? Peut-être avec Sonic Jam aussi, puisqu'il y avait un univers en 3D, ou avec Sonic Adventure? Alors, vous êtes plutôt sur quelle théorie?
Véritable 3D.
Voilà.
Pas juste la 3D.
Le passage de Sonic à la 3D, pour toi, c'était quand? Le vrai passage?
C'est dur à dire parce qu'il y a Sonic Adventure ou il y a Sonic R. Parce que dans Sonic R, tu pouvais te retourner et partir en arrière et te déplacer librement.
Tout à fait. Alors après, on peut aussi jouer sur la différence que Sonic R n'est pas un jeu de plateforme, Sonic.
C'est pas un jeu de plateforme, mais si tu regardes les mouvements des personnages, ce sont les mouvements qu'ils avaient dans les Sonic en 2D.
Effectivement, ouais. C'est pas faux. Alors on se souvient un peu, mais il y a aussi Sonic Jam, hein. Qui était une compilation Sonic avec quand même un espèce de hub en 3D où on pouvait aller se balader et c'était d'ailleurs assez sympatoche et donc celui-là je pense qu'il faut vraiment pas l'oublier pour le passage à la 3D de Sonic. Wissan, toi tu vois plus quel jeu le réel passage?
Alors j'hésite entre Sonic 3D et Sonic Drift.
Ah oui, c'est vrai que Sonic Drift avait une sorte de 3D, mais alors on va tout de suite mettre les choses au clair, on va parler plutôt du passage du Sonic plateforme. On va éviter les spin-offs un peu courts, je pense. Peut-être Sonic R peut être considéré comme de la plateforme, effectivement. Sonic Drift, je pense pas qu'il entre dans cette catégorie.
Quel dommage.
Donc tu verrais ça plus vers Sonic 3D Blast, quoi.
Voilà.
D'accord. Super Sept, toi tu vois ça quand?
La volonté de faire de la 3D, c'est déjà depuis Sonic Blast. Oui. Et à mon avis, la 3D isométrique, c'est surtout pour pouvoir permettre au jeu d'être développé sur Mega Drive, mm-hmm. qui ne pouvait à l'époque pas encore afficher de la 3D. Maintenant, c'est vrai que sur Sonic 3D version Saturn, les stages spéciaux étaient en vrai 3D, avec même une petite introduction en 3D, le petit Sonic qui arrive sur le chemin.
Ouais.
Mais c'est vrai que pour moi, le premier épisode vraiment bien réussi en 3D, c'est Sonic Adventure.
Alors, il faut savoir que les stages spéciaux de la version Mega Drive sont en fait un mélange d'espèces de mode 7 avec un parallaxe qui donne une impression de profondeur. Donc c'est pas réellement la 3D, quoi.
Et qui donne aussi la gerbe, on peut le
dire.
Oui,
qui donne aussi l'envie de vomir, ce qui, je pense...
C'est un mensonge.
Oh, c'est un petit peu l'effet Virtual Boy, hein. On a un peu le tournis sur Sonic 3D des fois.
Alors, j'ai bien compris pourquoi des gens disent ça, de Sonic 3D.
Moi non plus, d'ailleurs.
Mis à part le fait que le personnage est difficile à contrôler, donc il glisse. C'est vrai, dans Sonic 3D, il glisse.
Oui.
Non, mais il faut le dire, il glisse presque autant que dans Sonic Heroes. Et... pour les passages, parce que c'est vraiment de la vraie plateforme, hein, sur certains passages où on saute comme ça de plateforme en plateforme, c'est peu pratique. Mais on peut excuser parce que c'est quand même la première fois que Sonic est dans un univers en 3D, donc on peut se déplacer comme ça un peu plus librement.
Mm-hmm.
Donc c'est pardonnable le fait que, que les commandes n'étaient pas parfaites.
C'est vrai, c'est pardonnable. Donc on situerait donc, qu'on soit tous d'accord, le passage de la 3D Sonic entre Sonic 3D et Sonic R, quoi, c'est-à-dire à l'époque Saturn.
Voilà.
D'accord. Alors, maintenant, moi j'ai envie de poser une question. Qui a joué à Sonic Jam? D'accord.
Personne n'y a joué. C'est sur Saturne, donc forcément.
Donc il n'y a que moi qui ai eu une Saturne.
Mais il y avait eu Sonic Jam sur une console portable.
Alors oui, mais par contre là, il n'y avait pas d'univers du tout en 3D. Hein. C'était sur Neo Geo, il me semble, Neo Geo Pocket.
Ah non, pire, quelque chose de pire, un truc avec des petits points.
Oh, ah oui.
Ça te dit quelque chose?
Oui, ça me dit quelque chose, un écran LCD tout moche. Il me semble que c'était un truc pirate. Hein. C'est pas un jeu officiel.
Non, c'était un jeu officiel c'est une compilation de Sonic 2 et 3.
Alors la compilation de Sonic 2 et 3, de quoi tu parles en fait, ça tu confonds avec Sonic Pocket Adventure qui est sorti.
Non, c'était les jeux adaptés sur console portable.
Ah ouais, réellement. Enfin.
Mais horriblement mal. C'est-à-dire qu'ils avaient montré des. Alors là, c'est le truc qui donne place. Ils avaient montré des screens pour faire la pub. On voyait donc sur l'écran, Sonic par exemple, la séquence dans Sonic Pro, Sonic arrive en Super Sonic.
Oui.
Mais en fin de compte. Quand les gens ont eu l'occasion de jouer au jeu, en fait, c'est injouable. C'est-à-dire que c'est illisible, on peut rien voir. Il y a plein de chemins qui ont été coupés, il n'y a plus qu'un seul chemin par niveau.
Oh la vache.
Il y a des ennemis qui ont été enlevés. On réutilise plusieurs fois les mêmes boss. C'est-à-dire que c'est le même boss à chaque niveau.
Mm-hmm.
Pas de musique, quelques bruitages, mais bon, pas énormément. Le fait donc que c'est illisible parce que l'écran n'est pas du tout adapté. Et les personnages se jouent tous pareil.
Ah d'accord.
Voilà.
Bon bah
c'est un jeu qui est sorti qui a fait un véritable flop. Il y a peut-être 1000 exemplaires de jeux dans le monde.
pour ceux qui n'ont pas joué à Sonic Jam, Sonic Jam en fait, il y a un univers en 3D avec des missions à faire. Et ça ressemble très fortement à ce qu'allait devenir Sonic Adventure après les Adventure films. Voilà.
Est-ce qu'on peut pas à ce moment-là parler d'un spin-off? Parce que finalement, Sonic Jam, c'est l'ensemble des jeux
de la Mega Drive. Effectivement, avec cet univers en plus qui est original et qui est très axé plateforme aussi. C'est pas juste un hub, quoi. Il y a vraiment des choses à faire dedans. Donc.
Un peu comme le château de Super Mario 64.
Exactement, voilà, c'est ça. C'est bon, un peu moins riche quand même. Hein. On est sur Saturne, hein, je le rappelle. sinon, est-ce qu'on peut parler rapidement du cas Sonic Extreme qui était le passage à 3D, on va dire, entière. Donc un passage de la 3D à la 3D entière, à la 3D réelle qu'on connaît maintenant, qui n'était pas une simili 3D comme le mode 7 ou encore la 3D isométrique, mais qui fut annulé au désespoir de nombreux fans. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que Sonic Extreme, il y a eu beaucoup de versions. Il y a eu plusieurs versions du moteur principal du jeu, dont une qui était très avancée, basée sur le moteur de Knights. Et les créateurs du moteur de Knights ont tout simplement refusé que ça se fasse. Parce que c'était pas la même équipe, hein. C'était pas la même équipe au sein de la Sonic Team. Et d'ailleurs, c'était même pas la Sonic Team, il me semble que c'était un studio un peu plus indépendant chez Sega. Et donc en gros, ils ont refusé, ils ont refait le moteur une deuxième fois, ils l'ont présenté, ils ont refusé, ils l'ont refait une troisième fois leur moteur, en disant attention, ce n'est qu'un brouillon, ils ont refusé. Ils ont fait travailler des gens... comme pas possible, jour et nuit pour faire un jeu qui finalement n'a pas passé le cap de l'agrégation au niveau des responsables. Et donc le concept est mal passé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un des mecs qui travaillait, qui a créé la plupart du moteur, du troisième moteur de jeu de Sonic Extreme, qui est en train de finir le jeu avec des fans. Et donc le jeu sera fini et sortira en tant que fan game. Voilà pour la petite histoire pour Sonic Extreme.
Mais de toute façon, il était maudit, vu qu'un des boss était Fang.
Oui, de toute manière, un des boss était Fang.
Un des boss était également Metal Sonic.
Exactement, mais on retrouvait vraiment tout l'univers.
Les niveaux, c'était ultra fidèle à ce qu'on avait connu.
Exactement.
On a pu voir tout plein de... Parce qu'il y a une bêta qui est disponible sur Internet. une bêta avec des vrais niveaux jouables.
Mm.
Et donc on a pu voir des, enfin une bêta avec le premier niveau jouable, pardon, pas plusieurs niveaux, parce qu'il y a aussi eu entre temps des vidéos de retrouver des niveaux.
Ouais.
Et c'était ultra fidèle, quoi. C'était type un niveau Ice Cap, un niveau Labarif.
Ouais, voilà, enfin, un classique.
Un Deus Egg, enfin bon, le Sonic classique, mais dans un univers en 3D. Et niveau action, ça avait l'air très très bien foutu.
Ce qui est voilà.
Pour... C'était sur console 32-bit, et je pense que s'il y aurait eu un Sonic sur console 32-bit, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas tout de suite passé d'un Sonic 3D sur Mega Drive, un Sonic Adventure sur Dreamcast, peut-être qu'on n'aurait pas eu des jeux type Sonic Heroes ou Sonic 2006.
Alors voilà, on va se pencher sur le cas Sonic Adventure, puisque c'est le vrai passage, c'est un petit peu le Mario 64, c'est un petit peu ce qu'est Super Mario 64 à Mario. Sonic Adventure est à Sonic une réelle avancée dans le passage à la 3D, puisqu'on a un jeu entièrement en 3D, cette fois-ci, de la jolie 3D sur Dreamcast, et en plus de ça, ce jeu va rajouter quelque chose qui ne va plus jamais quitter les Sonic, c'est-à-dire un scénario établi. C'est-à-dire que là, on a un vrai scénario avec des vrais dialogues, on sait exactement ce qui se passe, et peut-être que, même si c'était bien fait dans Sonic Adventure, et même très bien fait, peut-être que ça va causer du tort à la série, par la suite, ça a causé du tort à la suite, par la suite à la série, et ça, on va le voir. Alors, au niveau du scénario, on se souvient que, on en a parlé la semaine dernière, que au niveau des scénarios des Sonic Old School, les scénarios laissaient quand même vachement place à l'imagination, puisque on s'imaginait des détails qui n'étaient pas précisés. Et bon, évidemment, ça a donné lieu à des milliers de théories sur le net et chez les fans. Mais on s'imaginait un petit peu l'histoire. On va reprendre un petit peu la discussion qu'on avait eue dans le dernier podcast. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand Knuckles se fait capturer dans Hidden Palace, on s'imagine tout et n'importe quoi. Est-ce que je dois le sauver? Est-ce que je le laisse là? Machin. On a vraiment le joueur qui est intégré dans l'histoire. Et bien là, dans Sonic Adventure, à partir de ce moment-là, on nous laisse plus le choix d'imaginer ce qui se passe derrière le décor. Je sais pas si vous êtes trop d'accord avec moi.
N'ayant pas joué à ce jeu,
ça sent le fanboy.
Vas-y, exprime-toi, Xelan.
Non.
Ah bah. Wissan, toi, ton avis sur la question?
Donc, j'avoue, je n'ai jamais joué à Sonic Adventure, je vais me pendre.
D'accord. tu sors, Super Seb, toi, tu as joué à Sonic Adventure.
Ouais. Et, ouais, dans un sens, c'est vrai que t'as pas fort tort. Je veux dire, il y a beaucoup, quand on joue plusieurs fois même d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, ou alors des choses qu'on croit savoir. Mais c'est vrai que, moi par exemple, pour pronostiquer.
D'accord, donc petite coupure pour Super Seb.
Oui.
Alors Super Seb, est-ce que tu peux juste répéter ce que tu as dit, parce qu'il y a une grosse coupure à ce moment-là.
Ah, donc j'avais dit que j'étais plus ou moins d'accord avec toi. Mm-hmm. Donc on a un scénario qui est assez complet pour qu'on sache une histoire, qu'on sache plus ou moins l'histoire, mais qui laisse bien sûr pas mal de place à
l'imagination du joueur.
Ouais, voilà.
Bah ouais, effectivement, c'est globalement.
Ouais, ce qui a fait ensuite l'imagination des scénaristes, vu que toutes les équipes qui sont passées après Sonic Adventure ont un petit peu détruit l'histoire qui avait été mise en place avec Sonic 2 et Sonic 3.
Effectivement.
C'est-à-dire que ça suivait. Jusqu'à Sonic Adventure, ça a très très bien marché.
Mm-hmm.
Et Sonic Adventure 2, la fin d'une histoire à peu près cohérente.
Effectivement, oui. On peut aussi parler du fait que dans Sonic Adventure, on a quand même un scénario. C'est une claque, parce que c'est un scénario ultra compliqué. Avant, ça se limitait à Eggman capture des animaux, il a son Death Egg, il faut aller le détruire, basta. Il y a les Chaos Emeralds, machin, qui donnent des super pouvoirs, voilà. Sonic Adventure reste dans ce truc-là. C'est-à-dire qu'il reste dans cette optique, les animaux, les Chaos Emeralds, Dr. Eggman et sa construction. Il reste dans ce schéma-là. Et c'est vrai qu'après, avec les Sonic d'après, on a commencé à avoir des choses plus shadowienne, j'ai envie de dire. En fait, je crois que l'arrivée de Shadow a bouleversé quand même vachement les jeux Sonic, puisque avec Shadow, ils ont voulu commencer à donner une dimension un petit peu sentimentale.
Un petit peu plus mature aussi, surtout.
Bah, un peu plus mature, un peu plus recherché, qui avait peut-être pas besoin.
Maria.
Enfin, voilà, c'est bon. Voilà, alors on va parler rapidement du scénario de Sonic Adventure. Je pense que je peux en parler. Je vais me lâcher. Alors Sonic Adventure, en gros, après la défaite du Death Egg et tout ça, Sonic est tranquille, pépère dans Station Square. Donc Station Square, qu'est-ce que c'est ? Et selon le comics, c'est une ville cachée dans Angel Island, il me semble, ou une ville cachée sous terre ou quelque chose comme ça par les anciens. C'est les anciennes villes. Selon la version de Sega, elle a toujours été là, et c'est juste qu'on l'avait jamais vu avant. Station Square, Sonic se balade dedans, il voit une flaque d'eau qui bouge, en gros, c'est un peu ça. Il voit un méchant, il le tue, il sait pas trop ce que c'est. Et à partir de là, à partir de cet événement, il va se passer un truc. Il va apprendre que, cette créature, en gros, a été enfermé il y a des années de ça par une ancienne civilisation, donc les ancêtres de Knuckles, une civilisation déchaînée, avec bien sûr les personnages de Tikal et de Pachama qui sont restés cultes. À côté de ça, Eggman a capturé donc cette créature donc qui s'appelle Chaos. Il l'a capturé et souhaite l'utiliser pour détruire le monde, construire Eggman Land, blablabla. Comme d'habitude, et donc on reste vraiment dans ce schéma-là. Un méchant, Eggman, un méchant secondaire, Chaos, et donc les gentils qui essayent de sauver le monde. Et il y a un truc formidable, c'est que ils ont réussi à prendre les concepts de Sonic, par exemple, je vais revenir sur l'histoire de 102, un concept qui est le concept de l'animal capturé, lobotomisé pour contrôler un robot. Eh bien, ce concept-là, ils l'ont décliné au maximum et en ont fait une histoire.
Moi, j'ai pas souvenir que l'animal était lobotomisé.
Alors, lobotomisé, oui, non, mais en gros, c'est il prend les animaux et les utilise pour contrôler les robots.
Je crois que les animaux qui sont à l'intérieur, en fait, ça utilise leur énergie vitale pour utiliser le robot, pour que le robot soit...
D'accord. Bah, moi, j'ai toujours
il semble aussi que c'est ça.
Moi, dans ma version, les animaux étaient reprogrammés pour conduire les robots, en fait. Enfin, bon, c'est peut-être...
Enfin, tu t'as raison,
hein. Franchement, après, ça, c'est pareil, hein. Ça laissait tellement place à l'imagination, on nous expliquait pas, quoi. Donc, on s'est chacun imaginé notre version de la chose. Toujours est-il que le robot, l'animal est dans le robot, et là, avec E102, on a un robot avec un animal, mais l'animal prend le dessus sur le robot.
L'animal est conscient, en fait. Il sert pas juste d'énergie. Il contrôle véritablement le robot, quoi. Enfin, je cherche un autre mot, mais en fait, j'ai pas trouvé.
D'accord. Donc, ouais, en gros,
la machine.
En gros, ouais, effectivement, on a
je voulais faire une blague, en fait, mais je me suis raté.
D'accord.
Genre tas de ferraille, tu vois.
Ah, ouais.
La poubelle.
Mais non, t'as bien fait de pas la faire, en fait.
Zélan s'enfonce.
J'aurais pas dû en reparler, d'ailleurs.
Ouais. Non, mais en gros, le concept de l'animal dans le robot qui est là depuis le premier Sonic, et qui est le concept de base de Sonic pour moi, là, est décliné à son maximum, et elle est très très bien utilisée, et inclus dans un scénario. Même un scénario qui est peut-être... pour moi, un des personnages les plus émouvants de toute l'histoire de Sonic, c'est quand même le 102. Quand on voit qu'il y a Omega après, quand même, voilà.
Omega, quel charisme.
Omega qui passait par là. ouais, effectivement, enfin, voilà. Et puis, on retrouve des personnages comme Amy, qui a donc, toujours, là, cette fois-ci, elle n'est pas capturée, mais bon, elle est toujours là, elle essaie de chercher
Sonic. Amy, pour une fois, on voit en fait son caractère, ça permet de mieux l'illustrer, en fait.
Moi, c'est dommage, j'aime bien son petit caractère de demoiselle en détresse plutôt que son caractère de grosse lourdasse, là.
Mais déjà, dans Sonic CD, c'était la grosse lourdasse.
Ah bon?
Bah
ouais. Sonic, tu vois.
Elle se faisait au tout premier niveau, à la fin, elle se collait à Sonic.
Ah oui.
Et quand tu courais, elle te poursuivait.
Donc voilà.
Il fallait aller dans le passé ou dans le futur pour s'en débarrasser.
Mais bon, là on voit un petit peu tous les avantages du passage de Sonic à la 3D, mais il y a aussi des inconvénients au niveau scénaristique, comme des incohérences, puisque à la 3D, vu qu'il y avait de la 3D, c'était limpide, c'était clair, donc il fallait tout expliquer, et malheureusement, des fois ça a été mal expliqué. Alors, Angel Island, quand on met la chaos, quand la Master Emerald est dessus, elle flotte ou elle reste dans l'eau? Ah! Parce qu'à la fin de Sonic 3 et Knuckles, Angel Island retombe.
Elle retombe si on termine sans les 7 émeraudes.
Non, à la fin de Sonic 3 et Knuckles finit correctement, elle remonte.
D'accord. Avec les 7 émeraudes. Les 7 émeraudes dans Sonic Adventure, ils sont pratiquement jamais sur Angel Island. Et même quand il y a la Master Emerald et qu'il n'y a pas les 7 émeraudes, elles remontent quand même. Faudra m'expliquer quand même. Enfin, ou alors peut-être ils ont fait une update d'Angel Island. Enfin, je sais pas, Knuckles il a peut-être fait une update pour que ça fonctionne mieux, mais je sais pas. Il y a un truc bizarre, quoi. C'est quoi cette mise à jour? Donc voilà, ça a donné des espèces de petites incohérences scénaristiques, pas très graves.
Et des incohérences plus des incohérences, bah
Sonic 2006.
ça nous donne Sonic 2006.
ouais, non, mais bon, voilà, quoi.
C'est-à-dire Shadow qui fait partie du gun ou des trucs
Oui,
comme
voilà.
ça.
Mais non, et puis on a eu le droit à des nouveaux personnages, donc E102 qui est un très bon
Trop de nouveaux personnages.
voilà, et Big.
Fou.
Alors Big, je crois que c'était un, c'est dommage de dire ça parce que c'est un personnage qui aurait pu être très bien, mais je crois que c'était une excuse de Sega pour utiliser leur accessoire sur la Dreamcast, leur accessoire de pêche, parce qu'il y avait Sega Bass Fishing, que tu pouvais l'utiliser avec, et Sonic Adventure, et je crois que c'était juste l'excuse pour pouvoir utiliser, enfin ils en ont profité un petit peu, je pense.
Consommer, consommer.
Bah c'est surtout pour justifier cet accessoire, quoi, parce que alors c'est dommage de le voir comme ça a créé un personnage totalement inintéressant et dénué de toute histoire de tout intérêt. C'est de personnage, on se demande.
Mais le pire, c'est qu'il revient.
Alors voilà, dans Sonic Adventure, il a quand même sa grenouille, Rogue, qui, elle, par contre, fait partie intégrante du scénario, et est très importante dans le scénario. Et c'est une idée que je trouve bien trouvée, le coup de la queue absorbée par la grenouille. C'est pas ça là ce que je viens de dire du tout, hein. Mais ce concept était assez intéressant, de la pièce manquante. Ça me rappelait certains mangas très 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 sympa où, bah, par exemple avec la queue de, je crois que c'est avec la queue de Sangoku dans Dragon Ball, je ne sais plus. Enfin bon. Il y a des similitudes. De toute manière, Sonic a toujours beaucoup de similitudes avec Dragon Ball.
Super Sonic.
Bah, rien que Super Sonic, rien qui, comme disait, me faisait remarquer tout à l'heure, Zélan, on parlait de Sonic 2006, c'est vrai que, l'histoire de Silver, c'est un peu l'histoire de Trunks. Bon, voilà. Mais j'en ai plus. Ah oui, donc Froggy, qui est donc, je trouve, un concept intéressant. Mais ce que je comprends pas, c'est que Sonic est un hérisson, il parle. Big est un chat, il parle. Les grenouilles n'ont pas le droit de parler, je crois. Il y a des
Sonic est un hérisson anthropomorphique. Big est un chat anthropomorphique. Froggy n'est pas une grenouille anthropomorphique, c'est une grenouille, point.
C'est vrai.
C'est encore un point qu'il faut éclaircir.
Alors voilà.
Il y a les anthropos, il y a les anthropos, il y a les humains, il y a les
Voilà, et puis
animaux.
j'allais y venir, il y a eu les humains. Les humains qu'on n'avait jamais vus dans aucun Sonic avant. Et ça, je pense que je me trompe pas. Hein. À part Eggman, bien sûr.
Oh,
En même
j'allais
temps,
corriger.
en même temps, je me demande si. Je veux dire, par exemple, on joue à Sonic 2, on tombe dans des univers style Chemical Plant ou alors Metropolis. Je pense que c'est ça, ouais. Je veux dire, ces trucs-là, c'est pas forcément toujours Eggman qui les a construits, quoi. À mon avis, il y avait vraiment des humains, mais ils n'ont pas été montrés parce que ils n'étaient pas nécessaires au jeu. Alors que dans Sonic Adventure, là, on a vraiment la ville, Station Square. Là, c'est peut-être bien démontré.
Ouais. Le problème, c'est que...
dans Sonic 2006.
Donc, on peut dire que au niveau scénaristique, Sonic Adventure, au niveau scénaristique seulement, est un bon passage à la 3D et même une bonne évolution de Sonic. Une plutôt bonne évolution, même s'il y a quelques incohérences. Alors maintenant, on va continuer sur le scénario, on reviendra au gameplay, au design des personnages juste après. On va partir dans le scénario. Pourquoi ils ont pas continué comme ça et pourquoi maintenant quand on joue à Sonic 2006, Station Square, on connaît pas. Je sais pas entre. Enfin, il y a trop de trucs quoi. Station Square, Central City, Soleana, on comprend plus rien.
En fait, on sait même plus dans quel monde Sonic vit.
Exactement.
Même Zelda, c'est plus cohérent.
Oui, voilà. C'est que même Zelda et Hyrule est plus cohérent. Bon, eux, ils ont justifié ça par des allers-retours dans le temps. Mais c'est vrai que...
Il fallait trouver une excuse. Hein.
Ouais, il fallait bien trouver une excuse à un moment. Et dans Sonic Heroes, il n'y a pas une trace d'humain. Par exemple.
On rappelle que dans le premier épisode de Sonic X, que j'ai regardé hier, Sonic voit des humains et se demande que sont ces créatures.
Alors voilà. Tout ça, on peut le justifier. Et les fans l'ont fait. Entre Sonic X et les comics Archie, les comics Fleetway, il y a eu une justification. Surtout le comics Archie qui a bien justifié Station Square, donc la cité cachée, les humains vivaient depuis toujours sous le monde de Sonic, mais ils se connaissaient pas, ils savaient pas qu'il y avait les deux mondes qui existaient. Sonic X, c'est plus les dimensions parallèles. Qui doit-on croire? J'ai envie de dire.
Personne.
On se fie jamais aux dessins animés, aux comics, tout ça.
Ouais, mais...
Plus un.
Enfin...
Tout ça, ça... C'est comme quand on raconte l'histoire du tout début de Sonic, soi-disant c'était un hérisson marron, il arrivait un truc avec les émeraudes, ou je ne sais quoi. C'est pas vrai. Il faut pas se baser sur ça.
Ivo Kibotnok.
Ouais.
Franchement, celui-là, Kintobor, il m'a trop
fait rire.
Ouais, Kintobor.
Ouais.
C'est Ovi Kintobor.
Ovi Kintobor, ouais. Et qui est devenu Ivo Robotnik. Enfin bon, c'est pas intéressant.
Non, mais maintenant dans les Sonic 3D, c'est l'intro en gros, c'est Sonic passait par ici quand soudain.
Oui, voilà. Et à chaque fois c'est ça. C'est il passait par là, oh, il se passe un truc, bon bah je participe quoi.
Pareil, alors dans Sonic Adventure, c'est un peu valable.
Dans Sonic Adventure, non, parce que enfin si, parce que c'est vrai qu'il vit dans un hôtel. mais
dans Sonic Adventure,
il y a l'atelier de Sales pas... qui est bien implanté au Mystic Ruins. C'est ça le truc.
Dans Sonic Adventure, en fait, c'est l'histoire des autres personnages qui fait qu'on.
Ouais.
On se rend compte que c'est pas. Comment dire, que c'est pas juste Sonic passé par là.
Voilà.
Mais si on prend Sonic Adventure 2, alors je crois qu'au tout début, il y a City Escape. J'ai pas compris en fait pourquoi au tout début.
Bah c'est parce qu'en fait l'histoire commence alors que Shadow est déjà libéré et en fait il est pris par les militaires tout simplement parce qu'ils ont cru que Shadow fout le bordel en ville et ils pensent les gens que c'est Sonic parce que les gens sont bêtes, ils n'ont pas la couleur, ils sont tous daltoniens. Ils capturent Sonic donc en pensant que il est devenu méchant. Et donc Sonic s'enfuit avec un snowboard et
en pleine rue.
Avec un bout de ferraille, oui.
Avec un snowboard et il fait du surf dans la ville parce qu'il est cool et il fait des slides parce qu'il est trop classe. Et voilà, c'est un peu ça l'intro de. C'est regarde comme Sonic est cool. Ouais, non, c'est vrai.
Sonic Heroes, même chose. Sonic 2006, alors, même chose. Sonic Unleashed. Sonic Unleashed, non ?
Alors, Sonic Unleashed, on va y venir, on va essayer de.
Oui, on en parlera parce que lui. Il est particulier.
Alors on va vraiment s'attarder là-dessus parce que c'est quand même un sujet très intéressant. Donc dans Sonic Adventure 2, on est dans quelle ville? On ne sait pas. Donc je pense qu'on peut
Metropolis, non?
On peut déduire que moi j'en ai déduit que c'était Station Square.
Puis il y a une grosse incohérence vu qu'il y a Green Hill juste à côté.
Ah oui, alors l'île est à côté de donc en fait il s'agirait de South Island à côté.
Voilà, il y aurait South Island à côté de Metropolis.
Oui, c'est Metropolis en plus la ville.
Ouais. Metropolis, je crois qu'on retrouve dans Shadow of the Hedgehog.
Un Metropolis et...
Il y a une cohérence, en revanche, entre Sonic Adventure 2 et Shadow of the Hedgehog, il y a une cohérence.
Effectivement, puisque...
Avec Sonic Heroes aussi.
Voilà, non, pas avec Sonic Heroes. Il n'y a pas de...
Si, vu que c'est là qu'on apprend que le Shadow est un...
Alors oui, au niveau de l'histoire de Shadow, ouais, effectivement, il y a une cohérence.
Une incohérence avec Shadow, incroyable.
Non mais de toute manière, Shadow, il est incohérent depuis la fin de Sonic Adventure 2 Battle. Il est mort, de toute manière. Voilà, c'est tout.
Mais non, mais il a été cloné, enfin, il y a tout un
truc. Ouais, enfin, ouais. C'est quand même...
On pourrait bien trouver une excuse pour regarder un personnage.
Voilà, c'est ça. C'est un peu ça.
Et vendre.
Mais alors après, donc, on a Metropolis. Dans Shadow the Hedgehog, c'est Central City. Mais il y a un truc qui est cohérent du début à la fin dans toutes ces villes, c'est le président. On a un président.
Alors,
le président de quoi? Des États-Unis, de machin, de bidule, on ne sait pas.
Et surtout, c'est le président de la ville.
Oui, en plus, à chaque fois, c'est le président de la ville, mais je ne sais pas. Enfin, moi, j'appelle ça un maire. Enfin, c'est le président du monde, quoi. Et il apparaît, pareil, on a le général du gun, là, qui apparaît dans... Il apparaît dans Shadow, je crois. Et,
ouais.
Et dans Sonic 2006, il est là aussi. Puisqu'il y a un truc...
C'était dans Sonic Chronicles, je sais pas.
Dans Sonic 2006, il peut pas y avoir de président, mais ça se passe à Soleanna, et que c'est Lord Regis, je crois, qui dirige le truc.
Ouais, mais Shadow travaille pour le gun. Aussi, le gun est bien là, tu vois. Donc, on peut pas se dire que... Par exemple, on peut pas se dire que Soleanna, c'est un monde parallèle. Tout simplement parce qu'il y a des éléments qui, du monde.
En fait, ça va peut-être se passer sur des continents différents.
Aussi, ouais, on peut se dire ça. On peut se dire ça, malheureusement, on n'a pas.
Ou alors, on peut faire simple, essayer de pas être trop fanboy et dire qu'il y a vraiment aucune cohérence.
Voilà.
Et je pense que c'est la meilleure explication.
Voilà, et il est là le problème avec le passage des Sonic à la 3D, c'est que il n'y a plus une seule histoire cohérente. Sonic 1, on est sur une île. Sonic 2, on est sur une autre île. C'est tout. Sonic 3, hop, une autre île, Angel Island, c'est cool, voilà, c'est tout. Enfin, c'est comme essayer de trouver une cohérence au monde de Mario, et encore, Mario, le monde est plus cohérent que celui de Sonic, quoi. Ça se passe toujours au même endroit, à part dans Mario Sunshine, et voilà, c'est tout. Enfin, voilà. C'est dommage qu'avec les Sonic 3D, on ait eu un scénario qui soit parti dans tous les sens, comme ça, et qu'on n'ait pas tout simplement suivi la ligne directive. Alors, par contre, moi, j'ai relevé un truc, et ils ont fait un effort. Dans les épisodes Rush, on a quand même une cohérence. Puisque...
Ouais, mais là, on n'est plus vraiment dans les Sonic en 3D. Hein.
On n'est plus dans les Sonic en 3D, mais pour parler du scénario, il y a une cohérence quand même. Comme quoi...
Le problème, c'est que bien que le scénario des Sonic sur DS soit cohérent entre Rush et Rush Adventure, de toute façon, c'est la suite. Hein, et là, ce scénario n'est absolument pas cohérent avec Sonic 2006. Qui est quand même l'histoire principale. Vu que Blaze meurt dans Sonic 2006.
Voilà. Et,
et que Blaze est tout à fait vivante dans Sonic Rush Adventure, elle va très très bien.
Oui. En pleine forme.
C'est le syndrome Shadow.
Le syndrome Shadow, exactement. C'est bon. On se pose des questions. Peut-être qu'un jour Sega fera un épisode qui réconciliera, qui fera la réconciliation entre tous ces mondes, toutes ces villes, tous ces univers. Ce jour-là n'est pas encore arrivé, quoi. C'est
donc... En fait, Shadow, c'est un vampire.
Alors, on va tout de suite passer à une autre dominante du changement, de la différence radicale entre les Sonic 2D et les Sonic 3D. Le design de Sonic. Alors, merci à Spawn de nous avoir signalé qu'il fallait qu'on parle de ça. Mais le design de Sonic a bien changé. Déjà, il...
Bien.
Enfin, bien, beaucoup changé. Donc dans Sonic Adventure, Sonic reste petit, un peu rondouillet, juste ses pics sont un peu plus longs que d'habitude et moins, un peu plus souple, quoi.
Oui, en fait c'est un peu le look de Sonic 3 en un peu plus piece of cake.
Voilà.
En fait il devient tectonique.
C'est un peu ça, Sonic est déjà tectonique au départ. Il est bleu, il a des pics, il est tectonique, forcément. non, mais c'est vrai que, bon, le design, le skin de Sonic Adventure, alors attention, parce que je sens tous les gens qui vont aller voir des screens ou jouer à Sonic Adventure DX, je préviens tout de suite les gens, dans la version DX sortie sur GameCube, ils ont changé le skin, hein. C'est plus le même. Là, on parle bien de celui de Sonic Adventure. Il a toujours les mêmes chaussures. On va parler des chaussures aussi, qui ont beaucoup changé. Et surtout, à partir de Sonic Adventure 2, on va en parler et pourquoi. Mais dans Sonic Adventure, le design de Sonic a légèrement changé. Ils l'ont adapté en 3D. Et alors là, je sens la dispute arriver, Xelan.
Oui. Non, je veux pas critiquer. Hein. Je veux juste dire qu'entre temps, il y a eu Sonic R.
Voilà. Et justement, dans les premières images de Sonic...
Et Sonic 3D aussi.
Dans les premières images, dans les trailers de Sonic Adventure, le modèle...
Non, on reparle pas de ça.
...était celui de Sonic R dans les trailers. Et du coup, ils l'ont changé lors du développement du jeu. Mais au départ, celui qui devait être utilisé, alors c'était peut-être un placeholder, hein, mais, tout simplement. Mais...
Tout simplement.
Dans les trailers, on voit bien qu'ils ont utilisé celui de Sonic R. Voilà.
C'est, voilà. Il y a un lien, mais il tenait à en parler. C'était plus fort que lui.
Et ce skin de Sonic R, on ne le retrouve absolument pas dans la version finale, bien sûr. Non. N'est-ce pas, Xelan?
Mais tout à fait. Mais enfin.
Mais voyons.
Mais pourquoi me dis-tu ça?
Donc.
La cosmogonie Sonic.
Alors, à partir de ce moment-là, donc, le design de Sonic a commencé à changer. Alors, on a des designs aussi qui ont changé. La couleur de Tails a changé aussi à partir de Sonic Adventure. Alors que dans les vieux Sonic, il était plus orange foncé, là, il est devenu carrément presque jaune. le design de Knuckles a pas mal changé. Alors qu'il virait sur le rose dans Knuckles Chaotix, il est devenu rouge. Bon. Et alors que le Amy avait un joli gilet vert et une petite jupe avec des jolies chaussures, ils lui ont mis une
robe et une coupe à la Sonic.
Et une coupe à la Sonic, là ils lui ont mis une robe atroce et voilà quoi. Et des bottes immondes. Surtout pour tous les dessinateurs de Sonic, tous ceux qui aiment dessiner les persos de Sonic. Dessiner les bottes d'amis, c'est quand même un truc de ouf à faire. Enfin, moi, j'y arrive jamais.
Mais faut avoir envie de dessiner Amy.
Ouais, en fait, faut avoir envie de dessiner Amy, c'est une bonne idée.
Bah moi, j'ai aucun problème pour la dessiner.
Ah, moi, j'ai du mal à dessiner les bottes d'amis. Bon, après, c'est un truc de dessinateur du fanboy. Mais en même temps, moi, je sais pas dessiner, donc voilà.
Voilà.
Et puis, donc, à partir de ce moment-là, on a un nouveau design d'Amy. Alors, et le design d'Eggman a beaucoup changé. Alors, j'ai envie de poser la question. Le nouveau Eggman, bien ou pas bien? Alors, il est moins gros.
Alors, le nouveau, dans quel Sonic 3D?
Alors, dans Sonic Adventure, pour l'instant. On va parler de la version 2006 après.
Mais... Oh là là.
Dans Sonic Adventure, le nouveau Eggman, comment vous le trouvez?
Bah, moi, je trouve qu'il ressemble plus à un humain.
Voilà.
Dans les épisodes 8 bits, Mega Drive, etc., Eggman ressemble, enfin, il est adapté au monde qui est un monde composé uniquement d'animaux qui vivent dans des villes construites par les hommes, mais soit. Et quand on arrive dans Sonic Adventure, là, on est directement dans le monde des humains, donc il fallait que ce changement se fasse de même pour Amy qui a refait sa garde-robe finalement comme n'importe quel humain se tient à la mode.
Alors pour Amy je suis pas trop d'accord, en revanche pour Eggman dans les Sonic en 2D c'était une grosse caricature. Dans les Sonic en 3D, sachant que dans Sonic Adventure on est dans le monde avec des humains, il fallait qu'il soit pas trop différent de ces humains.
Voilà.
Sachant que c'est quand même à la base, c'est le seul humain dans l'univers Sonic.
Tout à fait.
Donc, forcément, on a dû l'adapter pour qu'il soit plus proche des humains des autres humains qu'on pouvait croiser dans Sonic Adventure. Donc, c'était un changement qui était voulu et surtout nécessaire. Après, positif ou pas, ça dépend des goûts. Personnellement, j'aurais préféré qu'il reste petit et gros.
je tiens à signaler les quand même de, comment ils ont dans les comics Archie, comment ils ont justifié ces changements de design de Amy et de Eggman. Alors parce que bon, on s'intéresse pas forcément qu'au jeu, mais dans le comics Archie, en gros, Amy a fait le vœu de grandir et de et parce que Amy a 7 ans dans Sonic CD et on a plus 13-14 dans Sonic Adventure, enfin elle est un peu plus femme quoi. Et bah dans les comics, donc c'est pas ça, alors Amy a fait le souhait de grandir et tout d'un coup, on passe de la Amy un peu rossiolacée à la Amy toute rose en, en robe. Donc on passe de l'ancien design au nouveau design parce qu'elle a fait le souhait de grandir. Et Eggman, alors là c'est très fort, Eggman meurt dans le comics et son cerveau a été transféré dans une enveloppe corporelle créée par Eggman auparavant. Et donc l'enveloppe corporelle, c'est le Eggman qu'on connaît maintenant.
N'importe quoi ces comics.
Bah les comics, moi j'aime bien parce que des fois c'est super fidèle, mais il y a des fois ils te trouvent des... Enfin, c'est super téléphoné, quoi. Enfin, je sais pas. Les mecs, ils sont pas dit, ouais, ça va se voir que c'est du raccommodage, quoi. Enfin, bon. Donc, ce, le design
n'avait pas besoin
pourquoi...
d'expliquer quelque chose. Ils avaient pas besoin d'expliquer un changement, c'est juste.
Ouais, pourtant, ils l'ont fait, quoi.
Ils étaient en manque de scénario.
Exactement, bah.
Ou alors, Amy aurait pu faire les soldes.
Aussi, oui. Le problème, c'est que ça n'aurait pas changé sa tête parce que en fait, le comics Archie dessinait l'ancien design d'Amy puisqu'elle faisait partie intégrante du monde des comics Archie. Donc, elle était dessinée à la manière de Sonic CD, donc petite avec des pics comme Sonic et voilà, c'est une coupe Sonic.
Elle est allée chez le coiffeur.
Ouais, j'imagine déjà le coiffeur qui fait des soldes.
Ouais, bon, le coiffeur fait moins les soldes. Mais en gros, ouais, Amy est passée de ce design-là, un design, déjà, elle a changé de couleur, elle a changé de coupe, et elle a changé d'habit. Et de bottes aussi. Saleté de bottes. Et donc, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, le design a commencé à changer, et on a eu un gros changement pour Sonic.
Sonic 2006?
Alors non, il y a déjà Sonic Adventure 2. Surtout au niveau des chaussures. Alors, pour l'histoire, les chaussures. Qui connaît un petit
peu? Les swap shoes.
Voilà, les swap shoes.
C'est une horreur.
Sonic a changé de chaussure tout simplement parce que Sega a fait un contrat de publicité avec un concept de chaussures qui s'appelle les soft shoes, qui sont des chaussures qui permettent de grinder. Et ça existe vraiment. Hein. C'est au départ, c'est avant que Sonic le fasse, ça existait. Et c'est un espèce de sport un peu underground américain. Et
je confirme.
Voilà. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de revêtir de vraies soap shoes et c'est vraiment sympa de slider en bas.
Mais est-ce que les soap shoes ont vraiment le look que l'on voit dans Sonic?
Alors, effectivement, ce petit creux qu'on voit sur le dessous des chaussures, ce creux, cette espèce de talon, il existe vraiment. La marque Soap Shoes, à l'occasion du partenariat avec Sega, a sorti des chaussures de Sonic en édition limitée. Par contre, ils n'étaient pas obligés de changer les chaussures de Sonic, quoi. Enfin, c'est vraiment dommage.
Moi, je trouvais ça original.
Surtout que ça a vraiment été fait pour l'argent, parce qu'on a vu des images du début du développement du jeu, et ça n'y était pas.
Ça n'y était pas, et Sonic ne slidait pas, tout simplement. Aussi.
Si.
Mais il était jaloux des chaussures de Shadow.
Ouais, alors. Les chaussures de Shadow, vraiment c'est quand même...
Non, ce sont des air glisseurs, je sais pas quoi.
Oui, c'est des chaussures avec des coussins d'air, je ne sais pas.
Bah, c'est des chaussures qui glissent, quoi.
C'est des chaussures sponsorisées par Sonic Heroes. ouais, au niveau des chaussures, on a eu un gros changement. Ces chaussures, il les a pas gardées longtemps, parce qu'on les a vues, je crois qu'il les a gardées dans Sonic Advance, et encore, je suis même pas sûr. Mais... C'est pas resté super longtemps, puisque même dans Sonic Heroes, Sonic reprend ses
chaussures. Tu vas voir ça, toi?
De quoi?
T'arrives à voir ça dans Sonic Advance, toi?
Sur les artworks, en tout cas, je crois. Hein. Je sais pas. Et Sonic change aussi de couleur.
Donc, c'est uniquement le temps de Sonic Adventure.
Alors, il y a un gros débat sur le bleu de Sonic.
Oh.
Alors, Sonic est bleu foncé dans Sonic Adventure et Sonic DX. Il est bleu normal, on va dire, dans les autres Sonic, et il est bleu clair dans Sonic the Hedgehog 2006 et Sonic the Hedgehog premier du nom.
Dans Sonic Heroes, il est bleu brillant.
Ouais, bleu reflet en fait.
Bleu plastique.
Bleu lustré, tu vois, et huilé.
Voilà. Mais bon. Alors moi, personnellement, le Sonic que je préfère, c'est celui de Sonic Adventure, premier du nom. Je sais pas pour vous. Enfin, Sonic Adventure. Le Sonic 3D que vous préférez. Le modèle
En look, hein, seulement.
En look.
Honnêtement, Sonic Unleashed.
Ouais, c'est vrai qu'il est, il est vraiment sympatoche.
Je trouve que le look de Sonic est extra. Je pense qu'il aurait toujours dû avoir ce look-là après Sonic Adventure.
C'est pas faux. Bah, il ressemble vachement à celui de Sonic Adventure 2, hein, en plus clair.
Oui, voilà. Mais c'est ça le problème, c'est que Sonic Adventure 2 est un peu trop
foncé. Ouais.
Foncé. Et un peu grand aussi.
Et Sonic Adventure 2, c'est un petit peu l'épisode où aussi Sonic a commencé à ne plus... Enfin, c'est un petit détail. Hein. C'est un petit détail dans l'univers de Sonic. Des petits détails comme ça qu'on fait pas forcément attention. Mais souvenez-vous, dans tous les Sonic, le bruit que fait Sonic quand il saute. Il fait un petit... Et
oui.
Dans Sonic Adventure, il fait toujours ce petit ouh. À part quand il fait le mini attaque où il fait hé.
Ah, à partir de Sonic Adventure 2, ça fait Enfin, il fait,
ouais.
Bon, ça fait un bruit bizarre, il fait hé.
Voilà.
À moitié, ou...
On n'a plus ce bruit et on ne le retrouvera jamais. À part dans les Sonic 2D Advance. C'est-à-dire que. Enfin, dans les Sonic 2D sur console portable, quoi. Mais on ne retrouvera jamais ce bruit dans un Sonic en 3D.
C'est peut-être une volonté de rendre Sonic
plus réaliste,
décaler encore plus du jeu vidéo et de le mettre plus réel, ouais.
Exactement. Et cette volonté, on la retrouve dans le cas, alors ça c'est un cas à part, Sonic 2006, ou alors là Sonic est complètement humanisé, quoi, enfin...
Ah, quel horrible Sonic.
Alors, déjà le design de Sonic est très laid, le design de Robotnik est, mais, atroce.
Ah, c'est un humain, mais vraiment, il est grand, il est mince, ça n'a rien à voir avec le petit gros qu'on a eu avant, quoi.
Exactement. Peut-être que... Alors, à cette époque-là, on était tous en train de critiquer les Sonic parce que Robotnik passait pour un bouffon. Et je crois qu'ils ont essayé de le rendre crédible et ça n'a pas marché. Je crois que c'était un peu la volonté de le rendre crédible et bon, voilà.
C'est la volonté d'utiliser les consoles next-gen pour... ouais, on peut faire des trucs ultra réalistes.
Voilà.
Regardez ce qu'on sait faire,
ouais.
Avec des graphismes, avec une console puissante.
Ouais, et ça a pas marché du tout.
Bah, les cinématiques, par exemple, sont jolies.
Oui.
La princesse, par exemple, elle est très très bien modélisée.
Aussi, il y a mieux, mais oui, c'est vrai que bon, c'est un bel effort.
Mais bon, d'ailleurs, vous savez, sur la, j'ai vu des... Dans les magasins, on voit des écrans plats avec des pubs de jeux.
Oui.
Pour mettre en avant, par exemple, les capacités de la PS3.
Ouais.
Et ben, par exemple, je suis passé, bah, c'était Sonic 2006 qui passait.
D'accord.
L'introduction de Sonic 2006, elle est mise en avant pour promouvoir la PS3 dans les magasins, dans les géants.
Ah.
Voilà, c'était le petit détail. Hein.
Écoute, je suis pas sûr, mais voilà. Enfin, moi, personnellement, si je veux mettre en avant ma PS3, je mets pas Sonic 2006, quoi. Enfin, il y a des jeux plus beaux que ça, quand même. Enfin, c'est un autre débat. Donc il y a eu le cas Sonic 2006 et il y a Sonic Unleashed, donc avec bah, les persos comme on les a connus plutôt dans Sonic Adventure 2, je trouve. Enfin, surtout le
Eggman est redevenu ridicule, mais vraiment vraiment ridicule.
Il est ridicule depuis le début.
Oui, mais quand tu vois dans Sonic 2006, il a rien de ridicule.
Ouais, voilà.
Mais... Dans Sonic Heroes, il est pas vraiment ridicule. Dans Sonic Adventure 2. Oui, bah, c'est aussi parce que c'est la seule fois où c'est un personnage jouable.
Moi, ce qui m'a fait très rire, c'est quand même le ridicule de Robotnik dans Sonic Adventure. Surtout à la fin. Je construis mon Egg Carrier 2 qui dure à peu près 4 secondes et demie. Si c'est pas de la bouffonnerie, ça, qu'est-ce que c'est, quoi? Et puis, Robotnik a toujours été ridicule, Eggman est toujours ridicule. Regarde la tronche qu'il fait à chaque fois que tu tues un boss. Avec les moustaches cramées et tout. Il est un peu burlesque, ce personnage. Il faut le laisser comme ça. C'est dommage que dans Sonic 2006, ils aient essayé d'en faire un gros méchant et un vrai méchant, quoi. Donc voilà. On va passer maintenant à la catégorie du gameplay. Qu'est-ce qui a changé dans le gameplay de Sonic entre les Sonic 2D et les Sonic 3D?
Learning Attack.
Alors, qui veut un petit peu nous parler de ça, Supercell, qu'est-ce que tu as dénoté, toi, comme changement important?
Ben déjà, ouais, il y a le homing attack, mais le truc surtout principal lors de la 3D, c'est qu'on n'est plus obligé d'aller juste tout droit, on peut aussi aller à droite ou à gauche, tourner sur soi-même. Déjà, ça ajoute toute une dimension au jeu, ben, moi, je trouve.
Ouais, aussi, c'est vrai. Alors,
puis bien, on va parler. Bien sûr, il y a la difficulté. Avant, c'était facile, on voulait sauter sur un méchant, suffisait de sauter, viser bien, hop, on lui retombait dessus. Oui. Mais maintenant, le méchant, il peut esquiver à droite, à gauche, c'est pour ça que la Sonic Team a créé ce truc fantastique qu'est le homing attack.
Voilà, alors souvenez-vous, tout le monde a joué à Mario 64 et tout le monde a galéré pour sauter sur un ennemi dans Mario 64. Et là, oui, c'est un peu plus c'est quand même galère, c'est plus galère que dans un Mario 2.
C'est vrai que si le homing attack avait été présent dans Mario 64, ça aurait été bien.
Bah oui, ça s'appelle le saut rodéo. Sauf que c'est pas auto-guidé, mais c'est un peu ça, quoi, c'est un peu le concept.
Bah, le saut rodéo, oui, voilà, ça te permet de t'arrêter quand tu sens que t'es bien placé par rapport à l'ennemi.
Et bah là, le mini-attaque, c'est encore mieux. C'est même pas tu t'arrêtes, c'est tu vas sur l'ennemi et ils ont créé tout plein de mouvements après, dérivés de ce mini-attaque. Tout pourri.
Bah, y a pas que le mini-attaque qui est apparu.
Mm.
On a eu notamment le light dash.
Alors, le light dash, étant très fan de Sonic Adventure, j'aime le fait on puisse faire le light dash parce qu'il faut le charger avant, c'est-à-dire ce concept de bah, pour avoir quelque chose, je dois faire autre chose, c'est-à-dire il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est qu'on doit le charger, le light dash. Le fait qu'on ne doive plus charger le light dash à partir de Sonic Adventure 2, j'ai trouvé ça mais juste inutile et le light dash n'a plus aucun intérêt, tout simplement.
Non, bon, moi, j'ai jamais été d'accord avec toi sur ce point-là.
Mais c'est que le light dash à partir de Sonic Adventure 2, il est mal foutu. C'est tout. Il marche une fois sur 8.
Ça, c'est vrai.
Il a un peu de mal à fonctionner.
Alors que le light dash dans Sonic Adventure, quand
tu perds plus de temps à charger ton light dash dans Sonic Adventure, parce qu'il faut quand même qu'il ait la vitesse, qu'il reprend deux fois dans Sonic Adventure 2.
Qu'est-ce que t'en as à foutre? Attends, excuse-moi, mais tu es en train d'explorer Lost World. D'accord? Lost World, qui est pas un niveau de vitesse, hein, qui est un niveau d'exploration pure. Surtout. Tu te fais tes ennemis, machin. Moi, je suis désolé, charger un light dash pendant 4 secondes et que le light dash fonctionne, ok. Quand tu le charges, bizarrement, t'es sûr qu'il fonctionne le light dash parce que t'as juste à lâcher le bouton, en fait, pour le déclencher. Le fait d'avoir à appuyer sur le bouton pour faire un light dash et que tu vas appuyer 8 fois sur 10 à côté et te planter lamentablement comme dans Sonic Heroes.
Funky Boy, je te coupe un peu. Tu viens de me faire penser à quelque chose de très important.
Oui.
Le passage à 3D, c'est la fin des niveaux aquatiques avec Sonic.
C'est vrai. Les niveaux aquatiques, on n'en a pas eu beaucoup.
Au revoir Hydro City, au revoir Chemical Plant.
Au revoir Aquatic Rings.
Ouais. Seul Lost World de Sonic Adventure nous laisse un peu d'eau.
Et aussi un niveau de Knuckles qui se passe totalement dans l'eau, qui est même un des meilleurs niveaux de Sonic Adventure 2. Dans Sonic Adventure 2.
Oui, avec Knuckles, mais avec Sonic, c'est fini.
Ouais, avec Sonic, non, c'est bon, tu peux te brosser, quoi.
Donc on ne va plus dans l'eau, donc, alors que le niveau aquatique, c'était assez symbolique dans les Sonic, il y avait toujours un niveau aquatique.
Bah, de toute manière, maintenant, à partir de Sonic Adventure 2, à chaque fois que Sonic va dans l'eau, il meurt. Alors que dans Sonic Adventure, tu vas dans l'eau, bah tu vas dans l'eau, c'est tout. Souvenez-vous, la piscine de l'hôtel. Voilà, et souvenez-vous, tout le monde a essayé de se noyer dans la piscine de l'hôtel, voir s'il y avait encore la musique. Maintenant, tu vas dans l'eau, tu meurs. Même dans Sonic Unleashed. Je trouve ça débile, quoi. Pourquoi au lieu de... Je sais pas. Souviens-toi de...
Bah, dans Sonic Unleashed, j'ai eu un faux espoir.
Ouais. Alors, souviens-toi. Par exemple, dans Metal Harbor de Sonic Adventure 2. Tu tombes dans l'eau, tu meurs. Pourquoi, à la place, comme dans les anciens Sonic, tu tombes dans l'eau, oh tiens, il y a une partie du niveau qui est sous l'eau et tu peux continuer et remonter à la surface. Ça aurait été super, quoi. Enfin, je sais pas.
Mais oui, mais c'était pas rapide. Et c'est à ce moment-là que les gars ont commencé à penser qu'il fallait de la vitesse, de la vitesse, de la vitesse.
Et c'est débile.
Mmh. Mais depuis le passage à la 3D, il y a aussi plein
de
gameplays différents.
Même quand il n'y a pas d'eau, tu tombes. Donc,
ouais. Misan, tu disais ?
Mais depuis le passage à la 3D, ils essayent à chaque fois de mettre des gameplays différents.
Aussi, ouais. Alors ça a bien marché dans Sonic Adventure, on a 6 ou 7 gameplays différents. Puis ça a régressé, c'est-à-dire qu'on a des gameplays différents. En fait, c'est le système du pareil mais pas pareil, tu vois. Shadow, Tails et Robotnik dans Sonic Adventure 2, après je sais plus qui c'est qu'on a, Knuckles et Rouge. Regardez, il y a 6 personnages, 6 gameplay. En fait, non, il y en a 3.
Ben, il y a pire, il y a Sonic Heroes.
Alors, Sonic Heroes, ouais. Regardez, il y a 4 équipes avec...
Dans le multijoueur de Sonic Adventure 2, il y a Metal Sonic, qui est réellement différent des autres, et Amy Rose.
Aussi. Ouais. Effectivement,
mais
ouais.
C'est tout. Mais c'est tout.
Donc voilà, je pense que...
Merci Sonic Unleashed.
On pourrait aussi...
C'est différent.
On pourrait aussi parler donc, comme l'a dit, des niveaux aquatiques, et aussi de l'univers des niveaux qui a beaucoup changé. Puisqu'on retrouve des univers beaucoup plus réalistes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Wissan.
Oui, mais c'est surtout dans Sonic Unleashed.
Surtout dans Sonic Unleashed.
Là, carrément, c'est inspiré de cultures qui existent.
Alors...
D'ailleurs, on ne sait même pas dans quel monde on est.
Bah, dans Sonic Unleashed.
Ouais.
Bah, on est dans le monde réel. Tout simplement. Sonic Unleashed, ça se passe sur Terre.
On ne retrouve rien des anciens épisodes.
Bah, au niveau dans l'esprit, si. C'est-à-dire qu'il y a les humains comme dans Sonic Adventure. En revanche, les couleurs, les univers, même s'ils ont innové, par exemple au niveau chinois et des choses comme ça, ça reste dans le ton Sonic. Je sais pas si on me suit quand je dis ça. C'est-à-dire c'est coloré, sympa à voir, c'est beau. C'est dans l'esprit quand même, malgré tout. Je sais pas si vous suivez quand je dis ça.
Bah, le truc, c'est que les univers les plus cohérents qu'on a eu avec les Sonic 3D, c'est quand même Sonic Heroes, qui est vachement cohérent au niveau des univers par rapport au Sonic 2D. On retrouve un simili Green Hill avec Seaside Hill, on retrouve Metropolis là, qui ressemble vachement à toutes les bases d'Eggman qu'on a pu voir dans des Sonic 2D. On retrouve le dernier niveau, la Final Battle ou Final je sais plus quoi, là, qui ressemble quand même vachement à comment il s'appelle, à Sky Zone là, de Sonic 1 Game Gear. Enfin, on retrouve pas mal de trucs, quoi. Bon, après, le jeu est mauvais, quoi, mais il y a eu quand même certaines similitudes. Je suis désolé. Et puis dans Sonic Adventure, on retrouve Ice Cap, on retrouve par exemple le niveau de neige, le niveau de l'île paradisiaque, le niveau du volcan qui ressemble quand même super à la varie.
Mais Sonic Adventure en même temps, c'est un hommage aux anciens Sonic, donc
ouais, c'est vrai.
C'est le dernier ancien Sonic.
Moi aussi, je le considère comme le dernier vraiment Sonic old school, quoi, en mode je sais ce que je fais, je sais ce que je vais faire avec ma mascotte, quoi. Pas comme le reste.
C'est le dernier de la série principale.
Exactement, ouais. Puis c'est la fin de des chroniques d'Angel Island, alors qu'ils sont revenus quand même un petit peu avec Sonic Chronicles, apparemment, puisque le scénario de Sonic Chronicles a l'air assez développé au niveau... Enfin, il reprend la trame, Sonic 2, Sonic 3 avec Knuckles, Sonic Adventure, autour de la tribu échinée, autour de la Master Emerald, autour de tout ça. Et... Voilà, mais bon, c'est vrai qu'après, au niveau de la cohérence des niveaux et des univers, y a pas eu grand chose, quoi. À part les, moi, je continue à encenser les épisodes portables sur DS et sur GBA qui sont vraiment très bien, quoi.
Ah, Sonic Advance.
Ah, Sonic Rush 1. Enfin, voilà.
Ah, Sonic Rush 2.
Donc voilà, et ben, voilà, c'est quand même incroyable qu'on ait quand même, des niveaux comme City Escape ou encore un niveau que je n'ai pas aimé du tout, hein, Security Hall.
C'était quoi déjà?
Alors Security Hall, je sais pas si tu te souviens, c'est rouge dans une
non, parle pas,
avec un chrono, et là t'as juste envie de te pendre.
Ah oui, en plus le concept du niveau chrono là qu'ils avaient fait aussi avec Shadow.
Ouais, exactement.
Enfuis-toi de la forêt, un truc comme
ouais,
ça.
Ouais, c'était chiant.
Il va exploser.
Ah oui, on a commencé à avoir à foison des niveaux de forêt. Alors entre
puis, dans les Sonic 3D, il n'y a plus la limite de temps des 10 minutes.
Non, il n'y a plus. Bah non, parce que tu mets 15 minutes environ pour finir un niveau dans Sonic Heroes et à peu près 20 minutes dans Sonic 2006, donc ça sera bête.
Aquatic Base.
Aquatic Base, ouais.
Aquatic Base, d'ailleurs, le niveau qui m'a donné vraiment de faux espoirs du retour des niveaux aquatiques dans Sonic.
Ouais, non. D'ailleurs...
Mais non.
D'ailleurs, je sais même pas pourquoi ça s'appelle Aquatic Base. Il y a même pas une goutte d'eau dans le jeu, quoi.
Mais tu marches un peu sur l'eau un moment.
Ah oui, oui, mais c'est de l'eau bizarre, c'est de l'eau chelou, enfin pas belle.
Non, c'est l'eau normale. Mais après il y a des grosses boules d'eau.
Ah ouais, c'est des espèces de boules de slime, c'est même pas de l'eau quoi.
Non, mais dans l'esprit de la Sonic Team, ça l'était.
La Sonic Team nous dit que c'est de l'eau, alors on va la croire. Hein. moi j'ai envie de parler aussi des boss, des machines d'Eggman. Qui ont quand même vachement changé avec le passage à la 3D. Alors on a un egg carrière dans Sonic Adventure.
Bah, on peut dire qu'il n'y a plus des machines différentes.
Bah ouais, en fait ouais.
C'est-à-dire qu'à la base dans chaque niveau c'était des Batniks différents.
Ouais.
Dans Sonic Adventure.
Oui. Ça on peut alors, encore.
Il y a différents Batniks qui sont issus des Sonic 2D, mais qu'on retrouve dans les mêmes niveaux.
Voilà.
Genre, le singe lanceur de bombes.
On le retrouve dans
les niveaux. Dans chaque niveau.
Ouais, bah oui, mais enfin, il y a eu ça aussi dans quelques Sonic 2D où par exemple, tu retrouves tu la retrouves aussi dans Sonic Adventure, mais tu sais la boule avec les pics qui tournent autour. Tu la retrouves dans pas mal de niveaux aussi de Sonic Adventure.
La boule avec les pics, c'est plus subtil.
Ouais.
C'est parce que dans Sonic 3, ils ont eu l'intelligence de changer son sprite à chaque fois.
Ouais. Exactement, mais bon. C'est le même concept, bah donc
pour l'adapter aux circonstances.
Ouais, enfin la chenille violette de Sonic 1, tu la retrouves dans un ou deux niveaux, je crois, Caterpillar.
Oui, mais ça c'est uniquement le cas de Sonic 1, après Sonic 2, Sonic
d'ailleurs,
3.
D'ailleurs, tu trouves un bel hommage à la chenille violette dans Univolet de Sonic Adventure, sauf que là elle vole, mais c'est un peu le même concept, quand tu lui tapes la tête, ça tue tout en fait. Enfin, c'est le même principe. Alors voilà, justement, j'ai envie de parler d'un fait, c'est les badniks de Sonic Adventure, qu'est-ce qu'il y a de bien par rapport aux autres? Eh bien, tout simplement, je vais vous expliquer, les enfants, pourquoi les badniks de Sonic Adventure sont... Souvenez-vous, nous sommes en 1992. Je suis dans Emerald Hill. Pour tuer un putain de singe, je dois sauter en esquivant les missiles qu'il m'envoie. D'accord? La difficulté réside où? Ça réside pas en comment je vais le tuer parce qu'il est fort. C'est comment je vais le tuer parce qu'il se défend bien, ce connard. Et tu veux, il va falloir que j'esquive son missile. Donc c'est la façon de le tuer qui est importante. Dans Sonic Adventure, pour le singe, c'est pareil. Pour tous les ennemis, c'est pareil. C'est la difficulté à atteindre le point faible. Et on a Sonic Heroes, où la difficulté réside à ne pas s'endormir, en fait. Tout simplement, puisque en fait les ennemis ne se défendent pas bien. C'est juste que ils ont une jauge de vie, quoi. Et c'est juste immonde. C'est bon.
La jauge de vie, c'est à partir de Sonic Heroes.
Enfin, une jauge de vie où il faut le taper plusieurs fois, quoi.
Et bah oui, c'est une jauge de vie, il y a un compteur qui indique la vie. Hein.
Ouais, voilà, enfin, oui, t'as 3 de... Enfin, 80, 79, 78, 77.
D'ailleurs, on peut dire que c'est à partir des Sonic 3D que désormais, il y a aussi des ennemis non-robots.
Alors.
Des créatures.
C'est vrai.
Dans Shadow the Hedgehog, dans Sonic 2006.
Bah
dans Sonic Unleashed.
Dans Sonic Adventure 2, souviens-toi de King Boo, qui était un fantôme. Alors, on avait les fantômes aussi dans Sandopolis, mais par contre là, on voit bien que c'est des robots avec des draps dessus. Hein.
Oui, voilà. Mais on peut pas les tuer.
On peut pas les tuer.
Mais ce sont des fantômes qui sont créés par Eggman, vu qu'on les trouve dans une caisse d'Eggman.
Exactement.
C'est un conteneur.
Dans un conteneur, voilà, je cherchais le mot.
Exactement. Ce fameux conteneur que... Pardon, voilà, le conteneur.
Mais depuis Sonic Adventure 2...
Je sais pas ce que j'allais dire, mais c'est le fameux truc que à chaque fois, t'espères que Sonic va pas appuyer dessus. Quoi.
Donc, depuis Sonic Adventure 2, les ennemis, je les calcule même plus, je passe et je m'en fous.
Exactement, moi aussi.
Après Sonic Adventure, il n'y a plus de conteneur pour finir le niveau.
Exactement, on a la pression plus le ring de fin.
C'est l'invention du ring de fin. Pourquoi le ring de fin? Pour la vitesse, voyons. Parce que sinon, quand t'arrives à la fin, tu te rates parfois quand tu veux sauter sur le conteneur.
Alors que quand tu fais des speedruns Sonic Adventure, tu le hais, ce conteneur.
Oui, parce que ça peut te faire perdre la dernière seconde.
Et il y a un truc que j'ai appelé le conteneur landing, qui est l'art de finir un niveau en atterrissant pile sur le bouchon de la capsule, enfin, du conteneur. Mais ouais, je sais, je suis un gros fanboy.
Sonic Adventure est un jeu technique.
Exactement. C'est un peu ça. Ouais, donc il y a plein de choses qui ont disparu de l'univers comme ça, les badniks. Alors, on va parler des badniks de Sonic Heroes. Autant les niveaux sont très jolis et ressemblent pas, je pense qu'on a
créé. Les personnages ont une couleur de yeux.
Ah oui, les personnages ont une couleur de yeux. On va en parler juste après aussi.
Le détail dont tout le monde se fout.
Oui, c'est un peu ça.
Mais j'avais envie de le dire.
Mais les badniks de Sonic Heroes, c'est quand même quelque chose de très fort, quoi. Enfin, je trouve ça tellement mauvais. Déjà, ils ont plus des formes d'animaux parce que les badniks d'avant avaient toujours une pseudo forme d'animal ou une forme un peu rigolote. Souvenez-vous du coq dans Wing Fortress. Souvenez-vous des espèces de cochons dans Scrap Brain. Des chenilles, les
capas. Dans Mushroom Hill.
Voilà, dans
Le coq qui souffle.
Voilà, exactement. Ouais, c'est une espèce de girouette bizarre. On a les abeilles dans Emerald Hill ou même dans Green Hill. On a toujours eu des formes animales comme ça. Dans Sonic Adventure, on a le rhino un peu vert, là, on a les petits singes, comme tu l'as dit. On a vraiment que des badniks à forme à peu près animale. Et, à partir de Sonic Adventure 2, alors déjà dans Sonic Adventure 2, c'est les machines du gun. Je me souviens plus trop ce qu'il y a comme machine de Robotnik. Ça doit être des robots aussi, des espèces de mecha. Et maintenant, on a que des espèces de mecha ou des trucs moches comme dans Sonic Adventure. C'est dommage. Et là, il y a un gros silence parce que tout le monde est en train de se dire « Putain, c'était bien les badniks avant. »
Et ouais. Donc, et surtout que avant les badniks, quand on les démolissait, il y avait un petit oiseau qui sortait, un petit animal. Et la dernière fois qu'on a vu ça, c'était quand même dans
Sonic Adventure 2.
Dans Sonic Adventure 1.
2.
1.
Battle.
Non, dans
Battle.
Le 2, c'était des petits...
Non, il y est forcément dans le 2 parce qu'il y a un Chaos Garden.
Ouais, mais les animaux, on les prenait d'un petit tube, on sifflait et hop, ils apparaissaient. Ouais. Dans les méchants, on avait des sortes de petits, je sais pas,
des, néons.
Des diodes, voilà, des néons.
Ouais, c'est chelou. En fait, non, il y avait et des animaux et des néons, je crois. Parce que les néons te permettaient de rendre dark ton chaos et les animaux, ils le rendaient nice.
Non, je le sais, des badniks que tu démolissais dans Sonic Adventure 2, tu n'avais que des néons.
Ah, ok.
Non.
Bah, je ne sais plus, moi.
Avec la 3D, il y a eu le Chaos Garden.
Le Chaos Garden
Attends, qu'est-ce que vous racontez? Dans Sonic Adventure 2, il y avait des petits animaux qui sortaient. Hein.
Il me semble pas. Hein.
Oui, mais des tubes. Pas des
badniks. C'était des espèces de néons qui sortaient, des petites lumières, et tu les prenais, ça faisait des tubes. C'est tout.
Oui, mais aussi des animaux.
Il me semble pas.
Moi, je maintiens que non.
Même qu'il y avait un espèce de petit fantôme violet quand on le donnait au chaos, il avait plus de pied après.
Ah oui, mais t'as peut-être pas tort.
Non, ça c'était des petits animaux qui se trimbalaient comme ça dans Pumpkin Hill, par exemple. Qui se trimbalaient comme ça dans des endroits cachés. Mais des badniks, il n'y avait que des néons lumineux.
Ils n'étaient pas dans une espèce de cage?
Non, c'était des chaos dans des cages. Enfin non, c'était des clés ou des je sais plus quoi. Là. Enfin bon, c'est pas très important, mais toujours est-il que c'est vrai qu'à partir de Sonic Adventure 2, les animaux n'étaient plus très présents dans les robots, quoi. Et on n'en a plus vu depuis. Donc c'est dommage, je trouve. Alors... On a aussi un truc qui a disparu quand même. C'est enfin un truc qui est apparu, c'est et qui est resté jusqu'à Sonic Adventure, c'est pareil. C'est les forteresses d'Eggman. Et aussi, je veux parler des boss et des machines d'Eggman. C'est ça que je voulais dire. Je voulais pas forcément parler des badniks tout à l'heure, mais les machines comme par exemple les machines dans lesquelles Eggman monte pour combattre en fin de niveau, quoi. Alors je sais pas si vous vous souvenez des machines en 2D, c'était comme les badniks, le même principe, la difficulté résidait à le toucher, à pouvoir lui sauter sur la coque. Dans Sonic Adventure c'est pareil, bon on a le Egg Hornet, mais c'est un boss de premier niveau donc on s'en fout, mais après il y a eu par exemple le Egg Viper qui est totalement dans l'esprit des Sonic 2D. Et après, on a commencé à voir Bah, les machines du gun, je sais pas si vous vous souvenez des machines du gun dans Sonic Adventure 2, qui étaient encore à peu près similaires à ce qu'on connaît au niveau du système de boss. Mais on a eu des
bipèdes
totalement nazes, quoi. Que je me souviens, on a eu Leg Golem. Alors, Leg Golem, ça, c'est un truc très très fort, ça. C'est quand même, les mecs, les développeurs ne se sont pas rendu compte que le niveau, enfin, que le truc faisait planter le homing attack de Sonic, et donc le boss est ultra difficile pour ça. On a eu King Boo. Je vois pas l'intérêt de King Boo. Enfin, je ne comprends pas. On a eu, et puis après, il y a eu les boss de Sonic Heroes où, en fait, il fallait simplement enchaîner des homing attacks dessus en espérant ne pas tomber. Voilà. Pour les boss. Ouais. Et on a eu aussi, donc, les forteresses d'Eggman qui ont changé. Donc, on a eu les carrières très proches de Wing Fortress, le premier vaisseau de, dans Sonic 2. De Robotnik dans Sonic 2. Et puis après, on a eu, c'est tout. On a eu la colonie Ark. Entre guillemets, la construction de Sonic Adventure 2, mais c'est tout, quoi. Je sais pas, vous.
Il faut dire aussi que dans Sonic Adventure 2, le Eggman n'étant pas le méchant, il est jouable. Donc forcément, on n'a plus droit à ce genre de truc. Mais par contre, dans Sonic Heroes, il a sa propre flotte. Que d'ailleurs.
Qui est le véritable méchant dans celui-ci? Dans ce Sonic, en fait?
Dans
Sonic Heroes.
Dans Sonic Adventure 2, le véritable méchant, c'est Shadow. Il faut le tuer. En fait, il n'y a pas de véritable méchant dans Sonic Adventure 2. Tout le monde a chacun son but. En fait, c'est un peu ça. Pour Shadow, Sonic est méchant. Pour Sonic, tout le monde est méchant. Pour Shadow, le gun est méchant aussi. Pour Eggman, le gun est méchant et Shadow est méchant. Le véritable méchant, en fait, c'est le Biolizard, je crois.
Ouais, ça, c'est à la fin du...
Attends, je vais dire un truc beau, mais... Le véritable méchant dans Sonic Adventure 2, c'est le passé.
Oh, c'est beau.
Puisque tout tourne au fait...
J'ai pas suivi.
Bah, en fait, tout tourne autour du fait que le gun ait fait des choses pas bien dans le passé, que Robotnik ait fait des choses bien ou pas dans le passé, que Shadow ait fait des choses bien ou pas dans le passé, c'est tout. Le véritable méchant de Sonic Adventure 2, c'est le passé.
Et le méchant dans Sonic Heroes, c'est l'effet de glisse.
Ouais, le méchant dans Sonic Heroes, c'est le développeur.
Et dans Sonic 2006, les méchants, ce sont les bugs.
Ouais, les méchants, ce sont les bugs. Donc voilà, donc beaucoup de choses ont changé.
L'armée du bug à la place de l'armée du gun. Dans ce Sonic, affronte l'armée du bug.
C'est un peu ça, ouais. Donc voilà, beaucoup de choses ont changé. On espère qu'on vous aura éclairé un petit peu sur le sujet. On n'a toujours pas apporté de réponse, puisque c'est pas notre but. Mais on espère qu'on en aura au moins posé des questions, suscité des interrogations sur l'univers, c'est des questions que vous poserez en jouant la prochaine fois.
C'est qui Fong?
C'est qui Fong, très bonne question. Voilà quoi. Enfin, alors après, je vais poser la question quand même pour le principe, mais bon, je connais la réponse de tout le monde. Super Seb, tu préfères les Sonic 3D ou les Sonic 2D?
2D.
Zélan, tu préfères les Sonic 3D ou les Sonic 2D?
En fait, j'aimerais un peu améliorer ma réponse en disant que c'est pas comparable.
Oh, belle réponse.
Voilà, c'est-à-dire que. Il y a les Sonic 2D, il y a un esprit Sonic 2D, et maintenant il y a un esprit Sonic 3D.
D'accord, Wissan.
Évidemment, on préférera les anciens Sonic, mais...
Non, on a dit Wissan.
Fuck you, ok. Tu m'as coupé alors que j'allais faire une explication.
Eh bah, la suite au prochain épisode. Non, mais on a compris ton point de vue, c'est vrai que ils ont rien à voir, mais moi je vais apporter un truc à la fin, tu vas voir, ça va compléter ta réponse.
Non, mais toi tu vas dire les Sonic 2D, mais il y a Sonic Adventure qui est mieux.
Non. Une réponse objective. Wissan, Sonic 2D ou Sonic 3D?
Sonic 2D sur Mega Drive.
C'est pas faux. Eh bien, moi j'ai envie d'apporter la réponse la plus générale possible. J'ai envie de dire que je préfère les Sonic 2D, mais que tellement, et on l'a vu pendant ce podcast, Sonic Adventure est dans l'esprit des Sonic 2D. Moi j'intègre Sonic Adventure dans les Sonic 2D, même s'il est pas en 2D. On oublie le terme Sonic 2D, on va dire Sonic Old School. Et j'inclus ce Sonic avec tous les Sonic sur Mega Drive. Et Knuckles Chaotix, et Sonic CD, et les Sonic Game Gear, et tout ce qu'il y a pu y avoir de plateforme sur Mega Drive, Sonic Adventure, je l'inclus dedans. Parce que, pour moi, il a rien à voir avec Sonic Adventure 2 à part quelque chose, quelques détails. Mais pour moi, il a plus à voir avec les Sonic 2D qu'avec les Sonic 3D. Ce Sonic Adventure. Et moi, je le vois bien pile entre les deux. Et plus à pencher du côté de la 2D que de la 3D. Voilà.
Dans l'esprit. C'est une transition.
C'est une belle transition et ils auraient dû en rester là et faire que des transitions, je pense.
Mais il commence un peu à revenir dans l'esprit du Sonic Adventure dans ce qui est de la... Comment dire ? Du cheminement.
Du cheminement, effectivement. Sonic Unleashed...
C'est-à-dire, il y a eu Sonic 2006, mais bon, lui, on va l'ignorer. Plutôt Sonic Unleashed et Sonic and the Black Knight, parce que lui aussi aura ses Adventure Field, apparemment. Mm. Ils en sont revenus un peu à l'esprit Adventure Field et compagnie qui avaient sauté dans Sonic Adventure 2, Sonic Heroes, Shadow of the Hedgehog.
Et voilà.
En fait, Sonic Unleashed, c'est le véritable Sonic Adventure 2.
Bah, pour moi, un véritable Sonic Adventure 2, il n'y en a pas encore eu. Voilà. C'est là-dessus qu'on va clore ce podcast. On espère qu'on vous aura éclairé votre lanterne, que vous aurez pris du plaisir à nous écouter. On vous donne rendez-vous sur le site comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouveau podcast qui sera consacré à un sujet très intéressant, je vous le promets. N'oubliez pas de vous inscrire sur le site. Sachez que dans quelques jours, la section ressources sur laquelle vous pouvez télécharger plein de choses, eh bien, ne sera accessible comment ? Puisque vous, les membres, on vous considère comme des personnes un petit peu privilégiées. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à discuter sur le forum. On va vous créer une section pour débattre sur les podcasts. Si jamais vous souhaitez participer à un podcast de Sonic France, envoyez votre carte postale à... Non. Si vous souhaitez participer au podcast de Sonic France, n'hésitez pas à nous faire savoir sur le forum. On vous invitera avec grand plaisir, matériel nécessaire. Skype et un micro, et c'est parti pour le grand débat. Merci à tous d'avoir participé, merci Xélan, merci Wissan et merci Super Seb. On vous dit à bientôt. À ciao.